Il est midi 5 sur France Inter, vous retrouvez tout de suite Stéphane Paoli et ses 3D.
Le journal de Stéphane Paoli.
Deux thèmes pour 3D, mais deux thèmes qui, d'un certain point de vue, n'en font qu'un. Nous allons nous intéresser tout particulièrement aux mots. Il se trouve que c'est le moment du Festival du mot à la Charité-sur-Loire, qui est d'ailleurs devenue la Cité du mot. Et nous allons nous intéresser en particulier, dans cette première partie, à un mot, le mot harcèlement. Voilà qu'un homme, condamné pour harcèlement sexuel, vient de faire abolir le délit. Comment a-t-il fait ? Eh bien, il a posé une question prioritaire de constitutionnalité, le fameux QPC dont on commence à parler beaucoup. Pourquoi l'a-t-il fait ? Parce qu'il a considéré que, dans le droit français, le mot « harcèlement » n'était pas suffisamment précis. Et le Conseil constitutionnel l'a entendu. Et donc, à l'instant où je vous parle, le délit de harcèlement sexuel n'existe plus. Il est sorti du champ du droit. Situation absolument ahurissante, dont nous allons parler avec Marilyn Baldeck. Bonjour madame.
Bonjour.
Vous êtes déléguée générale de l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail. Mm-hmm. À côté de vous se trouve Jessica. Bonjour Jessica. On ne donnera pas votre nom parce que vous avez été malheureusement victime de harcèlement sexuel et que votre dossier est en instruction. Mais en tout cas, merci de
tout
votre présence.
Je vous en prie.
Et puis également Maud Beckers. Bonjour Maud Beckers.
Bonjour.
Merci aussi à vous d'être là. Vous êtes avocate au barreau de Saint-Denis et vous accompagnez Jessica dans ses démarches. Et c'est toujours, j'imagine, un parcours assez difficile.
Parcours de la combattante, oui.
Oui, de la combattante. D'ailleurs, c'est intéressant. Tenez, voilà un mot sur lequel on reviendra aussi tout à l'heure. Et puis, c'est quel plaisir de vous retrouver, cher Alain Rey.
Bonjour.
Parce qu'on ne présente plus Alain Rey sur l'antenne de France Inter, linguiste. À l'origine de si nombreux dictionnaires, et d'ailleurs aussi d'un livre qui vient de paraître et qui s'adresse aux enfants, hein, un peu Alain.
Aux grands enfants.
Aux grands enfants, presque.
Préados.
Préados, c'est ça, voilà. Qui a pour titre Trop fort les mots. C'est une coédition Milan France Inter. C'est vraiment bien que vous soyez là, Alain, parce que j'ai toujours en mémoire le souvenir de votre présence à la fin du 7-9, quand vous nous apportiez le mot de l'année.
Moi aussi, Stéphane.
Oui, mais c'était aussi un moyen pour nous tous de redonner aux mots l'importance considérable qu'ils ont. On va y revenir pour cette première partie. Et en deuxième partie avec vous et avec Marc Le Carpentier, qui dirige le Festival du mot, on reviendra sur les mots de l'année, celui du public, oui, qui est le mot « changement », et celui du jury, qui est le verbe « tweeter ». Alors, à propos du mot « changement », il a beaucoup inspiré Caroline Cartier pour son panoramique, c'est-à-dire au fond pour les rumeurs de la semaine écoulée.
Les Français, en ce 6 mai, viennent de choisir le changement.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
C'est la perspective d'une autre politique.
Rien que des mots.
La Grèce.
Ce qu'il s'agit pour nous de discuter avec les autres dirigeants de l'Union européenne, c'est la perspective d'une autre politique, la perspective d'une refondation de l'Europe en tant que telle.
Exemplarité, il va rejoindre Bruxelles.
François Hollande est la figure centrale de ce sommet. Il est d'ailleurs venu en train, petit changement de style par rapport à Nicolas Sarkozy qui venait toujours avec deux avions.
Des dizaines de milliers d'emplois pourraient tomber d'ici quelques mois dans le cadre de plans sociaux. Le contexte incite une poignée d'ex-ministres de droite à renoncer à leur salaire parachute auquel ils ont droit pendant 6 mois. La décision déclenche une petite tension à l'UMP.
Exemplarité.
Plans sociaux.
Depuis le départ de Nicolas Sarkozy, il n'y a plus à l'UMP de leader naturel.
Petite tension à l'UMP. Plans sociaux.
Exemplarité.
La parité aux législatives. Pour les prochaines élections, le parti de Jean-François Copé a investi moins de 30% de femmes candidates.
Parité. Parité. Parité.
Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau.
Ces orages d'une rare violence qui se sont abattus la nuit dernière dans les environs de Nancy. L'eau a envahi les rues, des inondations qui ont causé la mort d'une personne.
82 Français. Sonnerie aux morts,
Minute de silence, ils sont plus de 3000 êtres tombés loin de chez eux. En Afghanistan, le 25e sommet de l'OTAN commence. Encore
des mots. En Cisjordanie, des colons israéliens armés font face à des Palestiniens du village voisin qui leur jettent des pierres.
C'est la perspective d'une autre politique.
Le changement.
Alors les mots. Peut-être commencerons-nous par une incompréhension, Alain Rey. Voilà donc que le Conseil constitutionnel décide de sortir du champ du droit le délit de harcèlement pour une raison invoquée d'ailleurs par quelqu'un qui a été condamné pour harcèlement sexuel et qui consiste à dire au fond qu'on ne peut pas condamner quelqu'un sur un mot qui manque de précision, le mot harcèlement. Or moi je me souviens avoir lu, entendu que la langue française est une de celles qui a peut-être l'une des plus grandes capacités, non seulement à dire les choses, mais à évoquer les nuances, les degrés. Elle n'a pas été pour rien longtemps la langue de la diplomatie, par exemple.
Et la langue constitutionnelle, pour beaucoup de pays qui étaient en cours de, disons, de définition de leur constitution et qui ont eu recours au français comme langue de départ.
Mais alors, harcèlement, on ne sait pas faire. On ne sait pas dire ce que c'est que le harcèlement ?
Bien sûr que si, qu'on peut savoir le dire. C'est-à-dire qu'il y a les mots et il y a la façon de s'en servir. Je veux dire que ceux qui ont défini juridiquement le harcèlement se sont pris les pieds dans le tapis, excusez la vulgarité de l'expression, parce que ça n'était pas très difficile de remonter à l'origine d'une part et d'avoir recours tout simplement au dictionnaire. Je veux dire que même les dictionnaires du 19e siècle sont capables de définir le harcèlement. Et là, on tombe sur un problème qui est assez compliqué, qui est celui du passage du mot, qui est un instrument de communication et d'expression souvent vague, souvent imprécis, qui s'articule avec des situations très très variées au terme, et en particulier au terme juridique. Car le droit a besoin de définitions strictes et précises, c'est vrai. Et là, disons que les juristes n'ont pas abouti à ce qu'avait fait Cambacérès pour le code civil de Napoléon, où les définitions sont infiniment plus précises qu'elles ne l'étaient en d'autres langues, en particulier dans la langue anglaise, où c'est un droit qui n'est pas fixé par un code écrit qui règle les choses.
Mais ce qui est absolument incroyable, c'est que ceux-là, qui ont une haute responsabilité politique, au meilleur sens du mot politique, ce que nous partageons tous ensemble, y compris le sens des mots, ceux-là ont fait l'impasse sur même l'origine et la mémoire de ce mot. Harcèlement, ça commence par la chasse et par la guerre. Quoi, au fond,
ça commence par la chasse et par la guerre. Et là, il faut faire une très grande distinction entre le mot et le concept. Parce qu'on a au départ un mot qui apparaît en français au XVe siècle et qui est une variante d'un mot d'ancien français qui est le harcèlement. Et le harcèlement, qu'est-ce que c'est ? C'est le supplice de la herse. La herse, tout le monde sait ce que c'est un instrument agricole innocent, mais c'était aussi au Moyen-Âge un instrument de supplice pour supplicier les gens. De même que le travail est au départ un trépied qui servait à torturer, donc le sens initial est plutôt la douleur que l'activité physique, de même le harcèlement est au départ un supplice. Donc on a un point de départ qui est extrêmement fort et qui est confirmé par l'histoire du concept juridique qui nous vient des États-Unis sous la forme de harassment. Et harassment, c'est le harassement, c'est pris au français et c'est un autre verbe qui est le verbe harasser, que nous connaissons encore pour la fatigue physique, mais qui au départ veut dire le fait d'épuiser l'animal à la chasse, c'est-à-dire haro. C'est
haro et harcèlement sont liés.
Haro et harassement. Et herse et harcèlement. Donc on a d'une part un instrument de torture et d'autre part le fait de faire que la bête qui est pourchassée tombe de fatigue et en meurt. Voilà, donc point de départ d'une violence totale, d'une double violence que les langues se sont échangées puisque le harassement français est devenu un mot anglais, que le mot anglais est devenu aux États-Unis un terme juridique pour condamner la manière de faire du mal à quelqu'un d'autre d'une manière répétitive et sournoise en général. Et je me permettrai de rappeler la définition du harcèlement harcèlement moral dans ce cas que nous avons donné dans le petit Robert, parce que quand même ça reste mon enfant préféré. Et voilà, il est daté de 1998, on voit à quel point c'est récent par rapport à l'histoire du mot qui est du moyen français et de l'ancien français, qui est harcèlement moral, conduite abusive, entre parenthèses humiliation, menace, point de suspension, exercée de manière insidieuse et répétée par une personne sur une autre pour la déstabiliser, par exemple au travail, dans un couple, etc. Donc on a là quelque chose qui est déjà analytique. Ça n'est pas une définition parfaite, aucune définition n'est parfaite, mais c'est une définition qui donne des pistes pour le juriste. Le juriste n'en tient pas compte, il n'a qu'à prendre, un petit peu l'expérience des linguistes et des lexicologues, ça lui apprendra des choses, et qui donne une définition aussi creuse que celle qui a été critiquée par le Conseil constitutionnel, à qui on donnait des armes pour une action déplorable et condamnable, qui a été la suppression de la loi, parce que supprimer une loi, c'est beaucoup plus que supprimer les mots et la définition de la loi, c'est empêcher les gens qui sont victimes d'un traitement qui a été dénoncé par la société de poursuivre les agresseurs. Donc, je ne comprends pas l'attitude du Conseil constitutionnel, il faut quand même le dire et le redire, qui, à propos d'une question de lexicographie élémentaire, qui est que si je dis que le harcèlement, c'est l'action de harceler, évidemment que je suis insuffisant, puisque je renvoie à la définition du verbe harceler, qui prend prétexte de ceci, qui est un petit défaut technique qui est très facile à réparer, pour supprimer une loi, c'est-à-dire pour passer des problèmes internes de la désignation des mots aux problèmes concrets de la maltraitance en général. Et c'est absolument grave. C'est un combat de retardement de l'antiféminisme et de la gêne devant la sexualité que représente la langue française, malheureusement, depuis des millénaires. Mais elle n'est pas les seules. Toutes les langues européennes sont dans le même cas.
Il y a aussi deux choses qui tout à coup cohabitaient. Et on va voir à quel point c'est choquant. Il y a le mot et sa définition. Et puis, Jessica, il y a le vécu. Oui, là, on n'est plus dans les mots. On est dans ce qu'on vous a fait. Alors, on va pas revenir en détail, mais je voudrais d'abord savoir comment, par rapport à ce que vient de dire Alain Rey, c'est-à-dire à la définition, à l'origine, à la violence d'ailleurs, qui est déjà inscrite dans le mot harcèlement lui-même, comment vous vivez ce que vous vivez aujourd'hui ? C'est-à-dire que ce dont vous avez été victime n'existe plus en droit.
Oui, donc c'est particulièrement frustrant. J'ai tout d'abord été choquée, très abasourdie, puisque je ne pensais pas que le Conseil constitutionnel prendrait cette décision. Je me sens vraiment dépossédée de mon droit de poursuivre un combat qui, pour moi, était ma meilleure chance d'atteindre la résilience psychologique à laquelle j'aspire depuis que j'ai vécu ce que j'ai vécu. Donc voilà.
La violence. Quand Alain Rey dit que ce mot, on a entendu, d'où vient haro, harcèlement, terme de guerre. Il y a une définition d'ailleurs qui est donnée par le petit Robert, je l'ai noté quelque part, qui est édifiante. Quoi. Harceler. Soumettre sans répit à de petites attaques réitérées, à de rapides assauts incessants. Ce sont des mots de la guerre, ça.
C'est absolument. Il s'agit de la guerre et ça, oui. Et ça date de plusieurs siècles.
C'est la violence que vous avez vécue, ça.
C'est ce que j'ai vécu. C'est une guerre psychologique que j'ai perdue, puisque mon harceleur avait clairement une emprise psychologique sur moi. Et effectivement, c'est très violent, c'est très insidieux parce que il commence toujours par établir un climat de confiance. Ensuite, il m'a convaincu que toutes les personnes autour de moi me voulaient du mal et que lui voulait me protéger, etc. Donc, ça s'est fait vraiment de manière très intelligente. Au final, je m'en suis rendu compte.
Mais très insidieuse.
Très insidieuse et très intelligente, très calculée. Je m'en suis rendu compte a posteriori. Et donc, effectivement, oui, c'est vraiment une guerre. C'est vraiment très violent. Ça a des répercussions psychologique non négligeable.
Et un grand sentiment de solitude. J'ai souvent lu que les femmes qui sont victimes de harcèlement hésitent à porter plainte, d'abord parce qu'elles ont peur. Elles ont peur, au fond, qu'on puisse les accuser de porter plainte là où il n'y a pas de raison de porter plainte. Donc au fond, que ça se retourne contre elle.
Tout à fait. Donc moi, c'est pour ça que la décision du Conseil constitutionnel est malheureusement s'inscrit malheureusement dans une certaine cohérence, puisque depuis le début, depuis le moment où j'ai dénoncé mon harceleur à ma hiérarchie, j'ai rencontré des difficultés avec tous les acteurs de la chaîne judiciaire.
Mais on a pu vous accuser, par exemple, de dénonciation calomnieuse?
Bien sûr, mon harceleur a porté plainte pour dénonciation calomnieuse et la seule confrontation à laquelle j'ai eu droit, ce n'était pas dans le cadre de ma plainte à moi, c'est dans le cadre de sa plainte à lui. Donc j'ai été en confrontation dans le cadre de sa plainte pour dénonciation calomnieuse contre moi.
Incroyable. Et quand vous apportez des preuves, est-ce que ces preuves sont prises en compte? Est-ce qu'elles suffisent, par exemple?
Elles ne suffisent pas, étant donné que mon dossier a été classé sans suite par deux fois.
Et pourquoi?
Alors, il y a eu un classement 10, classement 61, qui signifiait qu'il y a une autre autorité qui se substitue à l'autorité judiciaire, qui est censée sanctionner la personne. Donc, en fait, je suppose que mon employeur a prétendu au procureur par l'intermédiaire du commissariat que mon harceleur allait être puni professionnellement, allait avoir une sanction, puisqu'effectivement, il est passé en conseil de discipline. Et donc, ma plainte a été classée sous ce motif. Sauf qu'au final, mon harceleur a été blanchi au conseil de discipline.
Là, est-ce que, au fond, dans les si nombreuses difficultés que vous rencontrez sur votre parcours, y a-t-il aussi la peur de la perte de l'emploi, de se retrouver non seulement agressé, mais en plus à la rue?
Je suis fonctionnaire, donc la perte de l'emploi, ça serait peut-être pas, mais en tout cas, on a une certaine sécurité de l'emploi, mais on n'a pas la sécurité du poste. Donc, ce qui fait qu'on peut vous placardiser. C'est mon cas d'ailleurs, puisque je suis dans un service.
Aujourd'hui, vous êtes. Vous êtes placardisé.
Tout à fait. Et oui, donc effectivement, bien sûr, puisque là, notamment, enfin, j'ai pas le droit aux heures supplémentaires alors que tous mes collègues y ont droit. J'ai des difficultés avec ma supérieure hiérarchique directe, des problèmes basiques.
Vous avez une supérieure à qui vous avez raconté ce qui vous est arrivé?
Elle le sait parce que tout le monde le sait, mais je ne lui en ai pas parlé. Je suis très pudique là-dessus. Et de toute façon, dans l'administration pour laquelle je travaille, la version officielle et même officieuse, malheureusement, c'est que j'ai menti, en fait. Tout le monde pense ça. Chaque fois que j'ai une collègue qui arrive dans mon service, elle me dit « Écoute, les gens disent que tu mens, que tu es folle. » C'est vraiment ça, les gens disent ça, quoi.
Ouais. Alors que dans ce dossier, il y a une multitude de pièces.
Ça, c'est Maud Becker, qui est l'avocate.
Je me permets d'intervenir.
Mais vous avez bien sûr, vous faites bien.
C'est important dans son dossier, c'est que les dossiers comme celui de Jessica sont extrêmement rares. Avoir autant de pièces qui prouvent le harcèlement, j'aimerais les avoir dans les autres dossiers.
Ce sont quoi? Ce sont des témoignages?
Ce sont des mails, notamment des mails à caractère pornographique qui portent avec le nom d'expéditeur le harceleur et en nom de destinateur Jessica. Donc il y a notamment une succession de mails, il y a du chantage qui apparaît sur les mails aussi, on lui propose des choses en échange de relations sexuelles. Et autant dire que ce genre de dossier, lorsque j'en ai parlé avec aussi Marine Baldeck, on était persuadés que ça serait un dossier facile. Et c'est le parcours de la combattante, ce que je disais tout à l'heure.
Marine Baldeck. Alors Marine Baldeck, je rappelle quand même que vous avez un rôle très important, puisque au fond, vous êtes la déléguée générale de l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail. On reviendra en détail tout à l'heure sur les si nombreuses années que vous avez consacrées à dire attention, il faut s'entendre bien sur le mot harcèlement. Vous avez commencé ça, on y reviendra en détail tout à l'heure. Mais dès 92, c'est pas d'hier quand même que vous menez ce combat.
Dès après le vote de la loi. Dès le lendemain, le vote de la toute première loi 1992.
Mais là, je vous vois réagir. Mmh. C'est-à-dire que quand Maud Becker, l'avocat, dit on a des mails, on a des preuves écrites, etc., tout ça ne suffit pas.
Non, alors justement, ça, c'est vraiment un stéréotype, une idée reçue qui vise d'ailleurs à empêcher les victimes de porter plainte, selon laquelle, dans ces dossiers, ce serait la parole de l'un contre la parole de l'autre. Ce n'est pas tout à fait le cas. C'est toujours dossier contre dossier. Et alors, si effectivement, dans le dossier de Jessica, on a pléthore de preuves, et ça c'est plutôt rare, on n'a jamais rien non plus pour prouver la bonne foi ou voir la réalité des faits qui sont dénoncés par les victimes. La preuve qu'on a dans le dossier de Jessica et qui aurait dû faire mouche, c'est qu'on a la preuve de son absence de consentement. à ces manœuvres-là. Parce que c'est peut-être ce qui fait ce qui est le plus difficile dans ces dossiers-là, c'est de prouver, un, que les faits ont existé, deux, que les plaignantes n'étaient pas d'accord pour rentrer dans ce jeu, avec tous les guillemets possibles. Et là, on a clairement les mails de GCK qui disent « Arrête, laisse-moi tranquille, je ne veux plus de ça, etc. etc. » Donc, on a tous les ingrédients, on avait tous les ingrédients pour un renvoi devant le tribunal correctionnel, puis une condamnation sans trop de difficultés.
Mais ce qui paraît, Jessica, absolument incroyable, quoi, c'est que disposant de mails, donc d'éléments objectifs que vous pouvez montrer, on continue de dire que vous êtes une menteuse.
Oui. Déjà, il faut savoir que la personne donc, contre laquelle je porte plainte, c'est un chef de police municipale. Donc, je suppose que ça joue dans le fait que j'ai des difficultés particulières pour me faire entendre.
C'est bien de, comme ça qu'un policier qui, en principe, est censé faire valoir la loi, hein, la loi républicaine, donc être porteur de valeurs, se livre à ce genre d'exercice, alors.
Et je pense aussi que, bon, voilà, dans l'administration pour laquelle je travaille, je pense aussi qu'il y a une forte emprise de la hiérarchie en général, qui fait qu'ils ont plutôt tendance à penser la version officielle qu'à croire qu'il puisse avoir un agent qui ait vraiment vécu des choses et qui ait, entre guillemets, le courage de les dénoncer.
Ça, malheureusement, quand on lit les dossiers, pas simplement le vôtre, Jessica, ça, Marilyn Becker, on le voit souvent. On voit souvent que... on le voit souvent, hein.
Oui, ben c'est toujours, comme le disait Maître Becker tout à l'heure, le parcours de la combattante. Et même dans les dossiers où on les plus solides, finalement, il y a toujours un transfert de responsabilité de l'agresseur vers la victime. Et on va rechercher chez elle les raisons pour lesquelles elle a été victime. Et si on en trouve éventuellement, ça sera tant pis pour elle, bien fait pour elle. Donc dans le cas de Jessica, tout a été recherché pour enfin transférer la faute sur elle. Elle tutoyait son supérieur hiérarchique, donc elle n'a pas pu être victime de harcèlement sexuel. Elle était capable de protester contre l'ambiance raciste qui régnait dans les services de police municipale. Donc, si elle ne l'a pas fait pour dénoncer le harcèlement sexuel, c'est qu'elle était d'accord. Donc on a cherché tout au long de sa procédure à écarter la culpabilité du vrai coupable.
Alors, je voudrais vous faire écouter quelque chose. On a eu la chance d'avoir la définition, l'explication, l'étymologie tout à l'heure du mot harcèlement avec Alain Rey. Avec toi, Jean-Pierrot, on va avoir la façon dont celles et ceux, encore une fois, que tu rencontres pour préparer l'émission, la façon dont celles et ceux perçoivent le mot harcèlement et ce qu'ils t'en disent. Et c'est très intéressant, je trouve.
Oui, et en plus, j'ai pas eu besoin d'aller chercher très loin et très longtemps, puisque ce que j'ai récolté, je l'ai récolté en une heure.
J'ai connu et j'ai eu pour collègue un homme qui était homosexuel et qui a été harcelé à la fois par un hiérarchique lui-même homosexuel et par le reste de son équipe que le harceleur avait monté contre lui parce qu'il ne donnait pas suite à ses demandes. Il a été mis au banc de toute l'équipe et il a démissionné.
Quelle a été votre réaction ?
À l'époque, moi, j'ai eu une réaction de syndicaliste, la syndicaliste que j'étais. Je suis allée interpeller la direction. Et à chaque fois, ce qui m'a toujours gênée, c'est qu'on déplace le harcelé, non pas le harceleur. C'est toujours le harcelé qui est pointé du doigt.
Parce que souvent, le harceleur est un supérieur.
Pour ce que j'ai connu, pour ce qui me concerne, c'est le domaine bancaire, c'était toujours des hiérarchiques, oui.
Ça s'est passé comment ?
Souvent de manière très indirecte, des allusions plus ou moins faciles à déceler, des attitudes sujettes à caution. Essayer de faire comprendre à la personne cible ce que, je ne sais pas si on peut appeler ça un agresseur, enfin disons l'agresseur potentiel souhaiterait obtenir.
Je suppose que ça commence dans la supposition d'une faiblesse de la personne que l'on vise.
Ça se fait toujours en douce, c'est-à-dire on prend la personne à part, en l'occurrence une collègue, on lui fait comprendre qu'elle est jolie, qu'elle nous plaît, et pourquoi t'as pas un copain, et après ça devient des questions sur pourquoi tu fréquentes un tel, mais est-ce que tu m'as demandé avant de lui parler, mais toujours sur le mode de la blague en fait. Et la blague devient tellement récurrente tous les jours qu'au bout d'un moment ça devient extrêmement lourd.
Il est comment le harceleur ?
Peu nuancé, autoritaire, univoque, sans possibilité de dialogue.
Dès qu'il arrivait en position hiérarchique, Avec les hommes, ça devenait un petit chef. Et du coup, avec les femmes, il se prenait l'illusion qu'il avait le droit à une sorte de droit de cuissage.
Les deux que j'ai connus, ce n'était pas le cliché du gros cochon, le patron Bislard ou autre. C'est souvent des mecs super cool, qui ne sont pas vilains, et qui sont assez à l'aise dans leur basket. Et du coup, qui sont très appréciés, en plus de généralement de l'entourage. Et du coup, ça rend encore plus complexe l'idée, je pense, pour la personne qui est harcelée, d'être crue par ses collègues.
Comment ça s'est terminé ?
Toujours mal pour le harceler, bien sûr.
Dans l'exemple que j'ai cité, la personne harcelée était une jeune femme extrêmement dynamique. Donc le harceleur a pris une paire de claques, s'est fait convoquer chez son chef en lui disant « Bon, écoute, c'est arrivé une fois, ça n'arrive plus jamais, sinon tu prends la porte. »
Maud Beckers, avocate au barreau de la Seine-Saint-Denis et avocate de Jessica. Le code pénal dit que harceler dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Il y a un mot là-dedans qui m'a sidéré, c'est le mot faveur.
Oui, le mot faveur qui est en effet connoté absolument pas comme... Enfin, ça ne traduit absolument pas la réalité vécue par les victimes et ce qu'attendent les harceleurs lorsqu'il harcèle une victime, parce que de toute façon, dans cette définition pénale qui a été abrogée par le Conseil constitutionnel, les associations féministes et les avocats qui défendent les victimes demandaient depuis longtemps à ce que ce texte soit modifié, tout simplement parce que la définition, et c'est vrai, je rejoins M. Ray sur la définition, le Conseil constitutionnel pouvait l'interpréter. Il y a une technique qui s'appelle la réserve d'interprétation, et le Conseil constitutionnel aurait pu ne pas annuler et simplement interpréter, au regard notamment de la directive européenne, qui est extrêmement précise sur ce qu'est harcèlement, aurait pu ne pas annuler cette loi. Mais en tout état de cause, nous sommes... entre guillemets, satisfait que le débat puisse repartir, car ce dont vous avez parlé, cette définition du délit avec ses faveurs sexuelles, ne correspond pas à ce que nous rencontrons tous les jours. C'est-à-dire que le délit de harcèlement sexuel, ce que vivent les victimes, est en soi punissable, même s'il n'y a pas de volonté d'aboutir à une relation sexuelle avec sa victime. Le seul fait d'être une femme ou un homme, d'ailleurs, je rebondirai peut-être aussi sur les hommes après, mais le seul fait d'être une femme ou un homme et d'être soumis à l'appréciation de son supérieur hiérarchique, car c'est souvent dans des situations de subordination que se passe ce délit, avec des réflexions à connotation sexuelle, avec des réflexions sur la nuit qu'elle vient de passer, où visiblement elle a une tête ce matin-là qui n'est pas satisfaisante parce qu'elle a dû faire autre chose que se consacrer à son travail, notamment avoir des relations sexuelles. Enfin, toute cette ambiance qui pèse suffit à elle seule à être déstabilisante pour la victime.
Mais maître, il y a un point aussi qui me paraît très important. On dit, et dans la définition, il est question du consentement. Le consentement étant une limite ultime, mais tout ce que vous décrivez, on s'en fiche du consentement. Se faire dire tous les matins qu'on a à la tête de quelqu'un qui a passé une nuit de débauche, recevoir des mails de façon continue, là, on n'est pas dans le consentement, mais on est dans le harcèlement.
On est dans le harcèlement, oui, évidemment.
Bon, ça devrait suffire, ça, non ?
Écoutez, ça devrait suffire. Moi, je pense en effet que tout cela suffit. Mais si on parle de définition légale, encore une fois, on pouvait se raccrocher à ces termes de la directive européenne. Mmh. Et là, pour le coup, la directive européenne définit très précisément les faits.
On va y venir à cette directive européenne qui est là depuis longtemps et sur laquelle, en effet, on aurait peut-être pu réfléchir un peu. Mais juste à l'arrêt, le mot faveur, quand même.
Le mot faveur, ça, oui, fait partie de l'arsenal. Hein. C'est tout à fait ça. Et je pense que le cas de Jessica est absolument exemplaire parce que c'est à la fois harcèlement sexuel et harcèlement moral
bien sûr.
Et harcèlement moral professionnel avec des effets sur le harcelé. Alors je remarque des marques de l'archaïsme de la pensée exprimée en français dans ce cas-là et qui est probablement plus archaïque en France qu'au Québec. Il ne faut pas oublier qu'on parle français ailleurs qu'en France et que parfois le droit le ressent de manière plus positive. On parle du harcelé et du harceleur. Très bien. Mais quid de la harcelée, qui est le cas majoritaire, justement. On emploie toujours le masculin. Et puis, sortir, quand on est auteur d'articles du code pénal, le mot « faveur », qui est un mot du XVIIIe siècle, c'est vraiment la guerre en dentelle. Hein. Et c'est pas ça du tout l'objet.
Vous permettez que je cite le Robert à nouveau, cher Alain Ray. « Faveur » de point, « disposition ». a accordé son appui ou des avantages à une personne de préférence aux autres. Il y a un deuxième sens.
Oui, favorisé.
Favorisé, bien entendu. Pour une femme, faveur. C'est quand même incroyable aussi. Pour une femme, faveur, ça veut dire que marquer la préférence qu'une femme peut accorder à un homme.
Oui, oui.
Et enfin, les dernières faveurs,
voilà.
Ça veut dire se donner sexuellement.
Voilà, c'est ça. Et donc, c'est encore une métaphore qui atténue les autres métaphores qui sont de nature militaire. Il n'y a pas de forteresse imprenable, vous me rappeliez tout à l'heure.
Absolument, oui. Formule souvent citée.
Toutes les femmes sont accessibles au désir masculin. Et ceci reflète cette tendance machiste et sexuellement orientée dans laquelle c'est la femme qui accorde des faveurs, et ça, c'est le consentement, justement. Donc, s'agissant de quelque chose où un des arguments principaux, c'est l'absence de consentement et le refus, on va mettre le mot du consentement dans la définition du délit. C'est hallucinant, je veux dire que ça marque un inconscient, parce que je ne pense pas que ça soit une volonté, mais c'est le combat de retardement général du pouvoir exercé majoritairement par les hommes. Peut-être que quand le Conseil constitutionnel sera formé paritairement, comme l'est maintenant le gouvernement français, peut-être que l'attitude va changer aussi. Parce que...
Je vous observais, Jessica, écoutant à l'arrêt à l'instant, je voyais à quel point vous acquiesciez à ce qu'il est en train de dire. Ce mot faveur, d'abord, j'imagine que ça vous paraît incroyable.
C'est scandaleux.
Je trouve ça indécent, tout simplement, parce que le mot faveur implique qu'il y ait un consentement et donc un libre arbitre, qui, lorsqu'on subit un harcèlement, le libre arbitre, en tout cas ce qui me concerne, est complètement parasité, anesthésié par l'emprise et par la méthode du harcèlement, justement. Donc effectivement, c'est un mot qui... ça annule le sens véritable, je pense, et la gravité de ce que devrait être la définition.
Surtout qu'en ce qui vous concerne, et j'imagine, et pour beaucoup d'autres aussi, et qui ne sont pas que des femmes, d'ailleurs, peut-être on pourrait parler de ce qui est arrivé récemment aux pompiers qui se sont fait bizuter dans des conditions
ça
qui sont absolument
odieuses.
Ce n'était
pas du harcèlement sexuel, c'était un viol. Oui.
C'était un viol. Mais enfin, au nom d'habitudes et de coutumes qui paraissent au moins aussi délirantes et stupides que le sens qu'on donne au mot faveur dans le contexte que nous évoquons maintenant. Mais c'est du harcèlement moral. C'est d'abord du harcèlement moral que vous avez vécu,
oui.
Jessica, non ?
Oui, c'est du harcèlement moral, oui. C'est du harcèlement moral, enfin... Oui, et de toute façon, à partir du moment où, surtout dans mon cas, mon harceleur a profité de son statut de supérieur hiérarchique pour m'imposer son autorité, même dans le cadre de propos qui dépassaient complètement sa fonction... à partir de ce moment-là, forcément, oui, j'étais harcelée moralement et sexuellement. Alors,
ce qu'il faut peut-être ajouter, c'est que le cadre du harcèlement, qu'il soit moral, sexuel ou autre, est très souvent un cadre dans lequel, justement, une autorité hiérarchique peut s'exercer. Et l'autorité hiérarchique maximum, où la trouve-t-on ? Dans l'armée et dans la police. Je suis navré. C'est comme ça. C'est la nature des choses.
Bien sûr. Alors, Marilyn Baldeck, ça, c'est vrai que... je rappelle encore une fois que vous êtes la déléguée générale de l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail. Cette importance de la hiérarchie, c'est une constante. Hein. C'est toujours souvent dans une configuration hiérarchique que s'exerce le harcèlement.
Alors, dans les dossiers qui sont suivis à l'association, c'est dans 80% des cas, ce qui veut dire que malgré tout, dans 20% des cas, la personne qui est mise en cause est un collègue de même niveau hiérarchique. Donc, il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est pour ça qu'en 92, notamment, on s'était battu pour que l'élément d'abus d'autorité soit supprimé pour qu'on puisse mettre en cause les 20% de harceleurs, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait une immunité légale pour ces 20%-là. Alors ces 20%-là, elles sont des collègues de même niveau hiérarchique, mais qui tirent souvent un pouvoir, peut-être en dehors du travail, parce qu'ils vont chercher leurs enfants à la même école avec le chef, parce qu'ils sont pompiers volontaires ensemble, parce qu'ils peuvent être syndicalistes aussi et protégés par un mandat syndical. Donc le rapport purement hiérarchique n'est pas le seul cadre dans lequel le harcèlement sexuel est possible. Par ailleurs, j'aimerais peut-être clarifier une ambiguïté sur harcèlement sexuel, harcèlement moral. On a tendance à parler de harcèlement moral pour tout ce qui est d'ordre psychologique, alors que le harcèlement sexuel s'exprime aussi de manière verbale, psychologique, de manière insidieuse. Et ce qu'a vécu Jessica est strictement du harcèlement sexuel. Donc avec des demandes à caractère sexuel, des propos à caractère sexuel, même si il y a des pressions psychologiques qui sont mêlées et qui visent justement à servir le harcèlement sexuel. Mais depuis le début de l'émission, d'ailleurs, on emploie le terme générique de harcèlement comme s'il pouvait y avoir des sous-catégories. Mais là, il y a bien deux, en tout cas, le code pénal distingue deux formes de harcèlement, deux formes de harcèlement qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre.
Mais qui sont, vous avez évidemment raison de le préciser, qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre dans la définition. Mais qui sont très souvent liés. C'est-à-dire qu'au fond, moralement, j'imagine que ce que Jessica a vécu pendant des semaines et des semaines devait avoir un poids considérable.
Oui.
Considérable.
Donc, mais là, on parle de l'impact sur la santé, l'impact sur la santé physique ou psychique. Mais en droit, il y a vraiment. C'est pas parce qu'on parle de harcèlement sexuel que, par exemple, c'est bien ce qu'on reprochait à cette ancienne définition du harcèlement sexuel, c'est que dans les faits, les condamnations n'arrivaient que quand il y avait des attouchements à caractère sexuel qui auraient dû fonder des condamnations pour des agressions sexuelles. Alors que le harcèlement sexuel stricto sensu, c'est un ensemble de manifestations qui sont connotées sexuellement, mais qui passent par du verbal et du non-verbal et pas nécessairement par des attouchements physiques.
Une chose m'a frappé en lisant tous les articles consacrés à cette question vraiment singulière. Hein. Une chose m'a frappé, Maud Becker, c'est, je rappelle là encore que vous êtes donc l'avocate de Jessica et que vous exercez au barreau de la Seine-Saint-Denis. C'est que dans certains domaines, et notamment dans la fonction publique, on voit très souvent, je ne sais pas s'il faut parler d'une sorte d'esprit de corps, qui fait que la personne qui est victime se trouve non seulement mise à l'écart, mais qu'elle voit presque tout le monde se retourner contre elle. Et j'ai découvert que, par exemple, dans l'enseignement, la voie de recours est très souvent disciplinaire, que, par exemple, c'est le président d'université qui décide si, oui ou non, la plainte est recevable, et qu'enfin, celui qui est mis en cause, il est jugé par ses collègues. C'est quand même incroyable, tout ça.
Ça s'appelle beauté en touche.
Ah bah oui, pour le moins, oui.
Oui, oui, non, mais ce genre de fonctionnement est incroyable. Mais c'est dans tous les cas de harcèlement sexuel que l'on constate ce que vous décriviez là qui est important, que l'on constate en effet que l'entourage se retourne contre la personne. Mais tout simplement parce que je pense que ce qu'il y a de commun entre les victimes de harcèlement sexuel, c'est qu'elles sont dans un lien de dépendance vis-à-vis souvent du travail dans lequel elle travaille. Et donc automatiquement, les collègues, voyant quelqu'un qui est menacé de perdre son travail parce qu'elle révèle des faits de harcèlement sexuel, ne vont pas aller soutenir cette personne puisque le fait de la soutenir pourrait amener eux-mêmes à perdre leur emploi ou perdre leurs avantages. Donc cet isolement que vous décrivez des victimes, elle est constante dans les dossiers de harcèlement sexuel, ce qui rend la preuve de harcèlement sexuel souvent complexe.
Alors Jean Pirot, tu as posé une autre question que je trouve très importante. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est tout seul comme ça au milieu d'une structure, qu'elle soit de la fonction publique ou dans le privé? Qu'est-ce qu'on peut faire?
Eh bien, l'idéal, ce serait de harceler le harceleur.
Et c'est la question que tu as posée, on va voir ce que ça donne.
Est-ce qu'il y a une attitude à opposer au harceleur?
Le refus net. C'est pas la fuite, c'est au contraire d'affronter, mais pour ça, il faut avoir la force ou être soutenu.
À mon avis, de la part de la victime, il faut réagir vivement et tout de suite, en disant stop.
Selon moi, je sais pas, ce qu'elle a fait, elle a essayé d'en parler à un maximum de personnes autour d'elle. Pour une personne qui a ce courage-là, en ce moment, moi, je travaille avec quelqu'un d'autre, pareil, qui subit ça, qui sait pas trop quoi faire, elle m'en parle à moi, mais elle est toujours embarrassée, parce que voilà, c'est le milieu professionnel, que peut-être il faut le prendre au deuxième degré, qu'on sait jamais si c'est de l'humour ou pas.
En quoi les témoins sont acteurs ?
S'il prête pas l'oreille déjà. Après, on peut pas être plus acteur que la personne, c'est-à-dire qu'on peut la conseiller, on peut lui dire voilà ce qu'il faut faire. Mais quand on est au même niveau, soumis à la hiérarchie, malheureusement, les témoins eux-mêmes sont dans cette espèce de peur et d'insécurité.
Les témoins peuvent être acteurs s'ils font pas quelque chose de manière directe ou indirecte pour s'interposer en mettant le haut là ou en faisant une remarque qui permet de montrer que justement il y a un témoin. Importance de la hiérarchie dans le délit.
c'est de donner des messages clairs sur ce qu'il est permis d'accepter ou pas, en fait. Et quand ça se passe, qu'est-ce qu'il convient de faire? Et je trouve que les messages souvent sont pas clairs. Moi, à l'époque, c'était dans mon ancien boulot, ce qu'on faisait, c'est qu'on laissait les portes ouvertes, par exemple, pendant les réunions, ce genre de choses. Mais malgré tout, le côté sournois, ensuite, du harcèlement, hors violence directe, n'est pas résolu, quoi.
La hiérarchie est un facteur révélateur. Celui qui intellectuellement est capable de profiter de ses collègues le fera d'autant plus facilement, soit qu'il est en position hiérarchique, soit qu'il appartienne à une organisation où la hiérarchie s'en fout ou ne s'occupe pas de ces problèmes-là. Et du coup, dans le recrutement même des gens qui vont avoir accès à cette hiérarchie, de bien repérer qu'il n'y a pas que des qualités professionnelles à être un chef, il y a aussi des qualités humaines.
La parité homme-femme est-elle un moyen de lutter contre ce type de harcèlement ?
De lutter, c'est-à-dire qu'elle la rend probablement beaucoup plus difficile parce que les femmes réagissent de manière très solidaire. Ça irait plutôt dans le bon sens, mais ça ne l'empêchera pas. Hein.
Si elle est respectée dans son intégralité, dans le sens où donner des responsabilités à part égale aux deux sexes, la parité fonctionne. Si on respecte la parité en nombre homme-femme et que pour autant on dispatche les responsabilités qu'aux hommes, là effectivement on fait juste un effet de façade.
Qu'en dites-vous à l'arrêt ?
Eh bien, j'en dis qu'il y a un conflit entre la généralité extrême de concept que transmet un mot, comme harcèlement, et le caractère extrêmement précis des conditions dans lesquelles il s'exerce, et donc de celles qu'il faut définir pour lutter contre, parce que sinon on n'arrive pas à lutter. Et tout à l'heure, bon, il a été dit, et c'est très juste juridiquement, qu'il n'y a pas grand-chose de commun entre harcèlement moral et harcèlement sexuel. Le juriste est d'accord, mais le linguiste ne peut pas l'être, parce qu'il y a évidemment quelque chose de commun qui est le sens du mot harcèlement. S'il n'y avait rien de commun, le mot harcèlement n'aurait aucun sens, ce que nous ne pouvons pas accepter. Donc ça veut dire que harcèlement n'est pas correctement défini, parce qu'il faut le définir d'une manière extrêmement générale, c'est-à-dire avoir un point de vue qui est partiellement logique, en disant un inférieur femme peut harceler un supérieur homme. C'est inscrit dans le concept. Malheureusement, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et c'est 99,9% des cas qui prouvent le contraire. Donc le droit est quand même obligé de tenir compte de la réalité des comportements. Et c'est de ça qu'il s'agit. Alors que le linguiste est contraint à chercher derrière la réalité des comportements une sorte d'abstraction générale qui peut être représentée par un mot. Donc conflit là-dedans. Et ça se résout par le passage de ce que nous appelons le lexique, avec ses valeurs floues, et puis la terminologie dont le droit a besoin et qui, elle, est dans le précis à tel point que ça n'est plus le mot qui compte, mais c'est le syntagme que le mot réalise en disant harcèlement moral, harcèlement sexuel, il faudrait harcèlement professionnel, il faudrait harcèlement hiérarchique, et il y a un certain nombre de concepts comme ça qui sont nécessaires pour lutter contre ce comportement général difficile à définir, extrêmement flou, qui a des potentialités qui ne sont jamais réalisées et d'autres qui le sont tout le temps, et pour lequel, évidemment, que le droit, qui est un système de réglage social, doit maîtriser. Et là, il faut que le droit change pour cesser d'avoir un esprit juridique qui, dans les mots, produit des définitions comme celle qui fait intervenir la faveur alors qu'il s'agit de violence.
On va revenir sur la définition d'abord, parce qu'il existe des textes, et notamment dans le droit européen, qui sont d'une précision qui pourrait déjà nous avoir servi depuis longtemps d'ailleurs. Mais juste encore une chose, Maud Beckers, sur le mot parité a été prononcé aussi. Je vois qu'aux États-Unis, il y a notamment dans le milieu bancaire, le milieu de la finance, beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes, même au moins 50% de femmes dans les grands groupes, et que très curieusement, la question du harcèlement disparaît assez vite dès lors que la parité existe entre les hommes et les femmes dans une structure.
Écoutez, je suis contente que vous me posiez cette question parce que justement, quand on nous pose la question de savoir qui concerne le harcèlement sexuel, on est obligé de répondre, ce qui est la réalité en France, que ça concerne en majorité les femmes. Mais pour autant, ça ne concerne pas les femmes parce que les femmes seraient des petites natures qui seraient particulièrement vulnérables face à des agresseurs. Ça concerne les femmes parce que dans la société à l'heure actuelle, les femmes ne sont pas dans des postes où elles ont la possibilité, le pouvoir de dire non. Donc quand j'entendais l'un des témoins tout à l'heure qui disait « pour faire arrêter le harcèlement sexuel, il est très simple de dire non », non, ce n'est pas ce qui se passe dans la réalité des sociétés. Et moi, je suis intimement persuadée que le jour où, en effet, il y aura plus de femmes au pouvoir, que ce soit au niveau du système politique ou au niveau des grandes places dans les grandes sociétés, je pense que nous aurons plus de plaintes d'hommes pour harcèlement sexuel, peut-être, puisque ce comportement, je pense, peut exister des deux côtés, évidemment. Et ce qui explique que ce sont en grande majorité des femmes, c'est parce qu'en effet, le pouvoir est actuellement entre les mains des hommes. Donc ce que vous me dites ne m'étonne absolument pas, puisque c'est ce que je constate tous les jours. La faiblesse dans la relation de travail ou même dans la relation bailleur-locataire, puisque ça peut exister dans ce genre de système, font que ce sont souvent les femmes qui sont des victimes.
Alors, tout ce dont nous parlons, on pourrait se dire, après tout, voilà, ça remonte à il y a quelques jours, quand le Conseil constitutionnel dit bah, on ne peut pas continuer, ça manque de précision. Pas du tout, pas du tout. 1992, l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, déjà, dès 1992, dit « attention ». Attention, harcèlement, arrêtons-nous sur le mot. Que dit-il ? Et comment la loi traduit-elle le mot ou pas ? Ça fait un moment que vous travaillez là-dessus, Marilyn Baldeck.
Alors, il y aurait énormément de choses à dire. Donc, en effet, il y a eu une première loi votée en 1992. Il y a la question du terme qui a été retenu pour désigner le délit, donc harcèlement sexuel, avec un mot harcèlement qui véhicule l'idée de répétition, alors que dès 1992, le législateur, en tout cas quand on lit les débats parlementaires, ça éclaire le sens du texte, voulait que le harcèlement sexuel puisse être poursuivi et condamné pour un acte unique. Donc déjà, on a un premier hiatus entre la sémantique du mot et l'application juridique du terme, puisque, et évidemment, une seule menace de licenciement, si une salariée ne cède pas à des avances de nature sexuelle, par exemple, ça devrait suffire à caractériser le harcèlement sexuel. Et là, on est bien dans un acte unique, et ça va être un des enjeux des débats parlementaires qui vont bientôt s'ouvrir d'ailleurs. Donc la deuxième chose, principalement, c'était donc le fait qu'il faille prouver l'intention de l'auteur d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, qui était problématique, puisque ça exclut du champ d'application de la loi un certain nombre de manifestations de harcèlement sexuel, puisque dans un certain nombre de cas, le harceleur ne recherche pas ces fameuses faveurs avec tous les guillemets possibles, mais cherche à humilier, à faire rire la collectivité de travail en prenant un bouc émissaire sur un mode sexuel, à pousser dans des retranchements, à dire c'est moi le chef. Enfin, en tout cas, ça peut affirmer un pouvoir, mais
la gauloiserie.
Pas nécessairement à obtenir, entre guillemets, des faveurs de nature sexuelle. Dès 1992, nous disions que cet élément constitutif de l'infraction comportait le risque de déqualification d'agression sexuelle, voire de viol, parce que le législateur n'avait pas précisé si ces faveurs, entre guillemets toujours, devaient avoir été obtenues ou pas pour que l'infraction soit caractérisée. C'est la raison pour laquelle les juges ont été constamment recherchés des attouchements sexuels, voire des pénétrations sexuelles forcées, pour caractériser le délit. Et c'est la raison pour laquelle le harcèlement sexuel stricto sensu, pendant 20 ans, n'a quasiment fait l'objet d'aucune répression. Donc le délai a eu pour fonction, en fait, de minimiser d'autres formes de violence. Et par rapport à ce que disait Alain Rey tout à l'heure sur le fait que ce serait une incompétence peut-être du législateur, ou en tout cas un impensé du législateur, je me permettrai de disconvenir, puisque quand on regarde toute l'histoire du délit de harcèlement sexuel, on ne peut que constater toutes les résistances. Il suffit de lire les débats parlementaires en fait, de 92 pour comprendre que l'indigence du texte, les choses trappes qui ont été volontairement mises dans le texte, justement, ne l'ont pas été par hasard.
Et c'est un long parcours. Quand je dis que vous venez de 92, le chemin a été long. Mais je voudrais qu'on s'arrête sur ce qui s'est passé, parce que là aussi,
Stéphane, ça s'envoie. Oui, là, je remplacerai incompétence ou incapacité du législateur par impuissance du législateur.
Quel joli mot dans le contexte que nous évoquons généralement aujourd'hui. 2010, Marine Baldeck, 2010, c'est quand même incroyable. L'Assemblée nationale vote la réforme de la définition. L'Assemblée vote. Qu'est-ce qui se passe ?
Alors, je ne suis pas non plus d'accord avec impuissance, mais je crois qu'on va clôturer le débat ponctuellement sur ce qui s'est passé en 1992. Donc, en effet, en 2010, en première lecture à l'Assemblée nationale, les députés votent la réforme du délit de harcèlement sexuel. La définition qui avait été retenue n'était pas idéale, mais en tout cas, aurait permis d'éviter l'abrogation qui est intervenue il y a quelques jours. Ce vote faisait suite à un travail colossal d'une commission ad hoc réunie sur la question des violences à l'encontre des femmes qui avait auditionné des dizaines de personnes, dont j'étais, et j'avais dit devant cette commission, attention, il faut réformer le délit pour tout un tas de raisons, et notamment parce qu'aujourd'hui, depuis 2002, il comporte une grave contrariété à la Constitution et qu'éventuellement, un homme condamné pour harcèlement sexuel pourrait s'en servir pour le faire abroger. Donc, personne ne peut dire qu'on ne savait pas. C'est-à-dire que les pouvoirs publics, le législateur, a été 10 fois, 100 fois, autant de fois que nécessaire, alerté sur le fait qu'il y avait un risque d'abrogation de la loi.
Que fait le gouvernement ? Alors, il met son veto.
C'est ça, c'est exactement ça. Donc, le texte navigué de l'Assemblée nationale vers le Sénat en passant par la commission des lois du Sénat. C'est jamais une très bonne nouvelle que les lois passent par la commission des lois du Sénat quand il s'agit de violence à l'encontre des femmes, parce qu'on sait que cette commission est assez réactionnaire sur ces questions-là. Et là, donc, Nadine Morano, au nom du gouvernement, a mis son veto sur la réforme du délit de harcèlement sexuel.
C'est une femme.
Non,
mais c'est pas innocent de remarquer d'un seul coup que c'est Nadine Morano qui dit non, veto du gouvernement.
Oui, mais alors c'est vrai que l'État...
Il y a des mouvements divers dans la salle, j'ai dit Nadine Morano, je ne sais pas pourquoi, ça fait réagir.
C'est aussi très confortable pour un État patriarcal d'envoyer une femme au front pour défendre des positions antiféministes. Faut être clair sur le sens de politique du fait que ce soit une femme qui porte un tel message. Faut pas se leurrer non plus sur les circonstances dans lesquelles ce message intervient.
Il y a aussi des pompiers pyromanes.
Voilà. Donc Nadine Morano a mis son veto en disant on ne peut pas parler de connotation sexuelle parce que c'est trop vague, parce que il reviendrait alors au juge de définir ce qui est sexuel et ce qui ne l'est pas, et ça ne serait pas conforme à la Constitution. Tout de suite après, un sénateur, M. Pillet, a déposé un amendement pour censurer la réforme du délit de harcèlement sexuel. Et ce qu'il faut dire, c'est que si c'est la gauche qui a fait voter le premier délit qui n'était pas satisfaisant, si c'est toujours la gauche qui était en 2002 quand le délit a été réformé, c'est bien, donc là, il y a une répartition parfaitement équitable de la responsabilité de l'abrogation, puisque en 2010, ce qui s'est passé, c'est que donc, le gouvernement de droite s'oppose à la réforme du délit, mais les députés de l'opposition ne réintroduisent pas un amendement. Ils auraient pu le faire devant l'Assemblée nationale pour que ce soit revoté. Et la question du harcèlement sexuel et les victimes de harcèlement sexuel ont servi de variable d'ajustement sur ce texte. Le texte devait être voté à condition qu'on ne parle plus, qu'on ne mentionne plus la question du harcèlement sexuel. Et donc les victimes, à ce moment-là, sont passées en pertes et profits.
Il ne nous reste qu'une seule minute et on est loin d'avoir fait le tour de la question. Simplement... Maintenant qu'il y a la parité au gouvernement, Maud Beckers, peut-être qu'on peut espérer qu'en effet les choses vont bouger un petit peu plus vite. Cette question de la parité étant en effet très importante. Une dernière chose. C'est un homme condamné pour harcèlement sexuel qui a fait abroger le délit. Cet homme condamné est un responsable politique. Mmh. Il a des amis politiques.
Oui.
Qui savaient ce qu'il avait fait et qui n'en ont rien dit.
Qui n'en ont rien dit, et je dirais même pire, c'est que dans la composition du Conseil constitutionnel qui a abrogé ce texte, il y avait des gens qui le connaissaient directement pour avoir travaillé avec lui, dont un secrétaire d'État en 1974, qui était secrétaire d'État en même temps que M. Ducret, et que dans ce genre de situation, on aurait pu imaginer qu'il se déporte et qu'il ne siège pas au Conseil constitutionnel. Donc on est en effet dans des situations où, comme encore une fois, ce délit de harcèlement sexuel est fait par souvent des hommes puissants, que ce soit des sociétés privées ou des hommes politiques, eh bien on arrive à ce genre de dérive assez constante.
Bon courage, Jessica.
Merci.
On n'est pas dans un monde... très riant, hein.
Non.
Mais on vous a entendu. On vous a entendu et je pense quand même que le Conseil constitutionnel qui fait son travail va remettre un texte précis qui vous permettra de faire valoir vos droits.
Donc, c'est plus un problème politique que sémantique.
Bien sûr. Merci en tout cas à vous toutes avoir accompagnées. Et Alain Rey va continuer de nous accompagner en deuxième partie tout à l'heure. Le journal dans un instant. Plaisir.
13h30, il est temps pour nous de retrouver 3D, le journal avec Stéphane Paoli.
Merci Brigitte Forest. Et cette deuxième partie de 3D va être consacrée aux mots de l'année, alors que va s'ouvrir le Festival du mot à la Charité-sur-Loire, comme chaque année.
3D. Le journal de Stéphane Paoli.
Alain Rey, linguiste, président d'honneur du festival et de la Cité du mot, en l'occurrence la Charité-sur-Loire, est resté avec nous. Il était là en première partie et nous sommes et Marc Le Carpentier nous a rejoint. Bonjour Marc Le Carpentier.
Bonjour cher ami.
Qui est le directeur du Festival du mot, dont c'est la huitième édition cette année. Ce sera donc du 30 mai jusqu'au 3 juin à la Charité-sur-Loire. Et la ville, habituellement, 3D s'y rend. Puis cette année, on n'a pas pu. Quel dommage. Mais enfin,
économie,
il y a en même temps
économie
partout. Voilà, présidentielle, législative, tout ça coûte beaucoup d'argent à Radio France. Et du coup, 3D reste enfermé dans son studio. Mais bon.
Mais on va le voir, voilà.
Oui, exactement. Donc non, c'est un beau festival. Et vraiment, toute la ville s'en trouve transformée. Les mots sont sur les murs. Les gens se parlent dans la rue, discutent et débattent des mots. C'est quand même un peu extraordinaire ce qui se passe à la Charité.
Je crois que la première partie de 3D aujourd'hui, et notamment la première intervention d'Alain Rey, montre bien que les mots sont source d'une immense aventure qu'on peut raconter. Quand il raconte l'aventure du mot harcèlement, on est saisi de bonheur, d'intelligence. Et quand on ouvre le dictionnaire historique, par exemple, qui est une des choses que moi je préfère dans la production rétaise, je dirais, la production d'Alain, de l'équipe, en tous les cas, de cette maison du Robert, nous n'arrivons pas à nous en détacher. Alors, c'est ce qui se passe à la Charité-sur-Loire. C'est que, finalement, la petite intuition que nous avons eue il y a 8 ans maintenant, montre que avec les mots de l'Algérie ou les mots de Jean Villard ou les mots du chocolat ou en s'interrogeant sur savoir comment on achète les mots, parce que les mots sont maintenant, on les achète sur Google. C'est-à-dire que quand on dit c'est du plaisir, c'est formidable, c'est magnifique les mots, c'est aussi une source terrible pour être en tête dans la petite rubrique de Google. Là, on peut être soit dans le coloré, soit dans le pas coloré. Mais en dessous, pour être en tête, il y a tout un jeu. Et il y a d'ailleurs quelqu'un qui va venir nous expliquer ça dimanche prochain à la Charité, sur Loire. C'est donc une source d'interrogation, de plaisir d'abord, ça c'est vrai. Et puis d'interrogation, et c'est ce qu'on essaie de faire pendant les quelques jours du festival. Et bientôt à l'année avec la Cité du mot. On en reparlera.
On va en reparler. Mais vous allez voir à quel point les auditeurs d'Inter, et en l'occurrence ceux de 3D, ont du génie. Mais vraiment, là, je ne me paye pas de mots pour sans mauvaise formule. Jean Pierrot, tu as croisé, là, décidément, comme toujours, des hommes, des femmes dans la rue.
Oui,
et sur le thème du mot.
Oui, j'ai fait aussi un festival du mot creux et plein.
Bah oui, mais sauf qu'ils sont vraiment très très bons. Hein. Voyons ça.
Donnez-moi un mot creux.
Bateau.
Croissance. Le vide, c'est creux, non? C'est pas assez creux.
Tuyau.
Directeur de marketing.
Comment le remplir?
En le vidant.
Opportunité.
Plat.
Comment le remplir?
Le plat, en mettant un gros pot de peinture dessus.
Livide.
Comment le remplir?
Avec quelqu'un.
Un mot plein.
Ballon.
Comment le vider?
Avec un aspirateur.
Alcool. Espoir.
Comment le vider?
Le boire.
Pneu. Bonheur.
Comment le vider?
Par petites gorgées.
Le matin ou le soir?
Oh, le soir quand même.
Vous auriez un mot à moitié creux?
Un chameau.
Et à moitié plein?
Une petite colline.
À moitié creux?
Soupape.
Et à moitié plein?
L'amour.
Un œuf.
Et à moitié plein?
Un œuf.
Et la poule, qu'est-ce que vous en faites?
Eh ben, on la plume.
Un mot à la fois creux et plein.
Demain. La tête. Une voyelle. Est-ce que des pleins et des déliés?
Y a-t-il un mot que vous plaignez?
Misère. Galvaudé.
Émouvoir.
Pauvre.
Sac à vin. Je reste dans l'alcool, là, tout, je sais pas pourquoi. Du mot creux ou du mot plein, lequel a le plus de relief?
Le mot creux. Le mot plein.
Oh, le mot creux, parce qu'il est tellement idiot, il est tellement...
Creux. Tout dépend ce qu'on en fait.
De l'extérieur, c'est le mot plein, et de l'intérieur, c'est le mot creux.
Un mot qu'on plaint pour son vide. Un mot qu'on plaint pour son vide.
Un mot plein de creux et de bosses.
Dromadaire.
Mal.
Ou alors montagne.
Dune.
Dromadaire.
Chameau.
Est-ce que vous consommez des crudités?
C'est comme la franchitude, la multitude.
C'est comme l'avidité.
L'avidité.
Oui. Comme plein de gens, j'imagine. Et puis c'est nécessaire.
Non, parce que j'ai des problèmes intestinaux.
Tout est dit, Alain Rey. C'était, quand je dis qu'ils ont du génie, je n'exagère pas.
Ils ont du génie, mais c'est surtout les mots qui ont du génie, moi, je trouve. Parce que, voilà, j'ai envie de citer la phrase immortelle de Ponson du Terrail dans un de ses romans qu'on ne lit plus aujourd'hui. C'est « Il trouva le lit vide ». Et le devint aussitôt. Livide. Donc, voilà, le calembour aussi fait partie du plaisir. Et là, moi, ce qui me frappe, c'est que la réaction des gens est spontanée.
Et la vivacité, ce sont des petites bulles de champagne, quand même. Ça va très vite.
La vivacité, la drôlerie. Tout le monde a souri quand on a entendu parmi les mots creux directeur de marketing. Je veux dire que c'est quand même une trouvaille d'avoir réagi comme ça, spontanément, parce que je suppose qu'ils n'étaient pas préparés. Donc, c'est formidable.
Alors, en préambule, Marc Le Carpentier, au Festival du mot de la Charité sur Loire, qui est désormais aussi la cité du mot, on y reviendra, il y a un jury qui se réunit pour chercher le mot de l'année. Cependant qu'à côté, il y a le public aussi qui s'interroge sur le mot de l'année. Et là, deux mots émergent, celui du jury, celui du public.
Absolument. Nous avons voulu cette année, effectivement, ajouter le mot du public, avec les internautes d'ailleurs de TV5 et de France Inter. Et on voit bien.
Donc, il y a du monde entier, pardon.
Absolument. C'est 64 pays ont voté. Ah,
c'est,
ça, ouais. Absolument,
c'est la francophonie, ce qui est quand même. Il fallait rappeler un petit peu l'existence du français hors de France.
Absolument. Ouais. Alors, on commence par le mot du jury, peut-être. Donc, c'est Alain Rey qui préside le jury. Autant comme l'an dernier, pour élire le mot dégage, ça avait été très vite. Oui. Autant comme là, on a passé deux heures à s'écharper gentiment quand même, parce que les mots qu'avait proposé Alain propose une dizaine de mots, ne donnaient pas totalement satisfaction, on va dire.
Il y avait changement dedans quand même.
Oui, il y avait changement quand même, mais on y reviendra sur les mots du public. Et puis quelqu'un, hors en dehors de la liste, a proposé le mot « tweeter ». Alors là, il y a eu une très longue discussion, d'abord pour savoir comment l'écrire, très compliqué, et en fait, on affirme ici, grâce au poids d'Alain Rey dans la linguistique, que ça s'écrit d'une certaine manière. On va voir si on réussit. Évident, d'ailleurs.
Oui,
il y a déjà des bagarres là-dedans. Mais je crois quand même.
Vous l'avez francisé, c'est T-O-U-I ou pas?
Non, T-W-I.
Ah, quel dommage, j'aurais adoré moi
de
le
T-E-R.
Tout.
De T-E-R.
Il fallait que
non
pour ça.
Il fallait que non. Tweeter avec T-O-U-I, ça aurait été ravissant.
Mais quand même, ce qu'Alain souhaite dans cette affaire, c'est en faire un verbe du premier groupe français, finalement. Ça part de Twitter.
Il a un culot incroyable, Alain Rey, quand même. Il tweet. Vous, Alain Rey, faire de tweeter.
Voilà.
Eh ben, oui, c'est
donc,
comme ça que
je
ça
crois que le jury a souhaité surtout, ça fait donc, c'est la huitième année, il y a eu un certain nombre de mots qui ont été choisis, qui sont d'ailleurs tout à fait, quand on voit la suite des mots qui ont été choisis, c'est assez intéressant. Parce que quand on est dans le jury, on se dit, mais attendez, choisir un mot pour l'année,
c'est absurde.
Quel orgueil. C'est même un peu ridicule d'une certaine façon. Bon, mais ça intéresse quand même les journalistes. La preuve, là, ça a marché beaucoup ces derniers temps. On a choisi précarité en 2005. On a choisi respect en 2006. On a choisi bravitude. C'est peut-être un peu... Bon, c'est peut-être pas terrible. On a choisi bling-bling.
Il y avait quand même une...
Si,
aspérité.
Cette année, je déforme bravitude.
On a failli choisir cette année normalitude. Mais on n'a pas osé. Bling-bling, il y a eu parachute doré, il y a eu dette, dégage et Twitter. Et je pense que le jury, en l'occurrence avec Twitter, a voulu réparer un peu une injustice vis-à-vis de ce monde nouveau qui est en train de naître, qui est le monde de l'informatique. C'est-à-dire que depuis 8 ans, on l'avait oublié. Et Alain avait proposé tablette dans la liste. C'est pas un hasard non plus si tablette arrive en très bonne position du côté des internautes et en deuxième position. C'est quand même qu'il y a un monde qui est en train de naître, que nous subissons ou que nous utilisons, mais qui est fondamental pour être un mot un peu de l'année. Et Twitter marche bien de ce point de vue-là.
Mais dans la mesure où Alain Rey enchaîne la création des dictionnaires tel le champion de ski passant les portes d'un slalom spécial, il va falloir, Alain Rey, peut-être, et ce serait d'ailleurs très intéressant, faire un dictionnaire des mots élus ces dernières années, car ils qualifient chacun une époque.
Oui, puis ça illustrerait un petit peu l'intention de l'opération, qui est non pas d'imposer quelque chose qui serait le résumé de la pensée de l'année, ce qui serait, comme vient de le dire Marc Le Carpentier, une idée folle, mais de marquer le mot en tant que signe comme le symbole. Voilà, c'est symbolique de l'année, c'est symbolique de la concentration de la parole publique sur un thème, sur une façon de voir le monde. Et c'est pour ça que ça peut être éventuellement un mot très général, très vague, et qui pourrait être le mot de l'année toutes les années, comme changement. Je veux dire que tout le monde a besoin de changement, ce qui veut dire tout simplement que la situation actuelle n'est pas la meilleure possible et qu'on aimerait bien que les choses changent. Oui. Ça a toujours été comme ça et ça le sera toujours. Donc là, on peut avoir un mot très général et on peut avoir un mot qui est spécifique de l'époque. Et là, je pense que tweeter, qui a été choisi par rapport à tablette en matière d'informatique, pour une raison très simple, c'est que la tablette n'est jamais qu'un objet. Alors l'avantage, c'était que c'était un mot bien français, sympathique, qui avait traduit la source anglo-saxonne de manière satisfaisante.
Tandis qu'avec tweeter, l'oiseau n'est pas loin.
Avec tweeter, l'oiseau n'est pas loin. Mais il faut savoir l'anglais. C'est ça qui est c'est dommage que ça ne soit pas en français. S'il y avait gazouilli, si on employait pépier, ça serait très bien, mais ce n'est pas comme ça. Bon. Donc, on est obligé d'accepter cette création d'un certain Jack Dorsey, j'ai noté en mars 2008, qui a été lancé en juillet de la même année 2008. Vous voyez que c'est pas très très vieux, et qui a abouti à 340 millions de tweets par jour au bout de 2 ou 3 ans. C'est absolument hallucinant.
Mais c'est un phénomène, ça, Alain, que vous décrivez très bien aussi grâce à un autre outil qui est le dictionnaire culturel de la langue française. C'est-à-dire qu'au fond, la langue, elle est vivante.
La langue est vivante.
Et elle intègre son époque.
Et elle est internationale. C'est-à-dire que là, je rejoins la pensée de mon ami Umberto Eco, qui dit toujours que finalement la langue est au-delà de chaque langue particulière et qu'on est toujours plongé dans une sorte de bain langagier universel dans lequel toutes les langues contribuent et s'échangent. Et puisque le français est finalement, c'est ma définition, un créole du latin, parce que ça vient du latin, mais ça a tellement modifié les structures du latin que c'est plus du tout le latin, exactement comme les créoles ne sont plus leur source de vocabulaire, qui peuvent être le français ou l'anglais ou le néerlandais, etc. Le français est un créole, voilà, et c'est un créole du latin qui est rempli de mots germaniques parce que finalement les rois de France sont franciques, comme leur nom l'indique, et que le mot franc et français, c'est un mot germanique. Nous n'y pouvons rien, c'est le legs de l'histoire, et il faut l'accepter. Alors nous sommes à la fois gaulois, romains et germaniques, voilà, ce qui fait que nous sommes vraiment européens, je veux dire. Et tout ceci fait que l'échange des langues est normal et que si la langue anglo-américaine nous inonde de nouveautés, c'est à nous de réagir en mettant des mots nouveaux français comme la tablette. Donc on peut, faute de pouvoir militer pour Gazouilli, qui n'a pas beaucoup de chances de réussir en matière de tweet, on a choisi de donner l'orthographe francisée et que en français, ça n'existe pas. Et on dit, il y a bien le tweed, mais moi, j'écrirais bien le tweed, comme le proposait tout à l'heure notre ami, comme T-O-U-I-D-E, ça serait beaucoup mieux. Queneau a tenté ça, il l'a réussi en matière littéraire, mais pas en matière sociale, parce que les gens sont attachés à l'orthographe. Voilà, donc voilà, tweeter est un verbe français comme un autre, et il est tellement employé maintenant qu'on ne peut pas revenir en arrière. On peut que le franciser légèrement, comme ça, en remplaçant les deux E par un I.
Ce qui vous a aidé, Marc Le Carpentier, c'est que d'un côté, il y a le jury qui vit dans son temps et qui choisit tweeter, puis de l'autre côté, il y a le public qui, lui, est resté très dans la langue française.
Très dans la langue française, et avec ce mot qui s'était imposé, évidemment, en France, beaucoup pendant la campagne électorale, mais qui, malgré tout, a été aussi repris par un certain nombre d'internautes du monde entier. Comme si, comme le disait Alain, il y a en toute saison, j'allais dire, une aspiration au changement. Ah, ouais, parce que le changement, c'est un espoir de progrès.
Alors, ils disent bien, attention, toujours l'idée c'est que le changement, hein, le mot. Ils n'ont pas pris changement.
Le changement. Le changement. Et le changement est donc
un espoir d'une vie meilleure. On pense toujours que ça, c'est pas à changer pour que ça aille moins bien, c'est changer pour ça aille mieux. Et Alain le dit très très bien, et c'est l'idée du progrès. C'est-à-dire qu'en choisissant changement, les internautes et le public a choisi l'idée d'un progrès qui allait peut-être, qui sait, s'imposer dans les mois ou dans les années qui viennent, non pas seulement en France, on n'est pas seulement dans le côté national.
Il y a besoin de changement en Grèce, hein, tout le monde est d'accord
là-dessus. Oui, absolument. Je peux juste, Stéphane, revenir sur Twitter quand même. Moi, je fais partie du jury, donc j'ai voté. Et j'ai voté pour Twitter. Mais je n'ai pas voté peut-être exactement pour les mêmes raisons que les raisons susdites. Je pense qu'il ne faut jamais oublier que l'inventeur de Twitter, du Twitter, je ne sais même pas comment on dit, là, Twitter, enfin du système informatique, disait que c'était fait pour être inutile.
C'est Twitter, en anglais.
C'est ça. Donc il disait, ça n'est pas conçu pour être utile.
C'est un envoi bref d'informations sans conséquence.
Je traduis. Voilà. D'où l'idée de choisir ce mot de tweet de gazouille, mais aussi d'inutilité, qui quand même a conduit un certain nombre de responsables ces derniers mois à devenir des tweets, des followers, je ne sais pas très bien le vocabulaire.
Les tweetos.
Pour exister eux-mêmes. C'est-à-dire que dans le tweet, l'émetteur a presque autant d'importance que ce qu'il dit. La preuve d'ailleurs, c'est que souvent, il dit des choses inintéressantes. Oui. On a vu comme ça un ministre de l'écologie, je crois, dire le matin dans son tweet, je pars dans ma voiture.
Oui, c'est
bon,
ça.
C'est une information.
J'arrive à l'Assemblée, j'ai du
nouveau
mal à
tweet,
me garer.
J'arrive à l'Assemblée. Et puis alors, se mettre en place des systèmes dans tout ça, qui font que quand nous, on a choisi de tweeter avec le jury, que ça a été annoncé hier par les communiqués de presse d'Inter, du TV5 et du Festival du Mot, on a eu tout d'un coup un déploiement de tweets absolument fou, mais de tweets pas non plus tout à fait fondamentaux dans la pensée contemporaine. On va dire, c'est allé jusqu'à un tweet de Madame le ministre de la Culture qui quand même a dit bonne chance au Festival du Mot. Donc je trouve
cette
inutilité assez aussi symbolique d'une époque qui peut-être, on y reviendra par rapport à la cité du mot, qui peut-être a tendance à mettre les mots un peu de côté.
Alors, mais je pense en vous écoutant beaucoup de bruit pour rien. C'est-à-dire que ça aussi, c'est, oui. Hein, tout le monde tweet, tout le monde donne son avis sur tout. Et donc
d'accord, mais beaucoup de bruit pour rien est une des plus belles comédies jamais écrites.
Bien entendu, mais c'était... Voilà. Ah oui, donc au fond, je trouve qu'il y a là-dedans quelque chose d'assez réjouissant. Hein, c'est-à-dire que nous ne sommes pas dupes, au fond. Hein.
Oui, et je crois
parce
que le
jury... Parce que tout le monde sait que tweeter, honnêtement, c'est...
Oui.
Puis bon, quand on regarde un peu, notamment dans le champ politique, qui tweet, on n'a pas encore vu l'équivalent de Shakespeare, par exemple. Hein.
Non, mais pourquoi ? Moi, je n'exclus pas des poètes qui se mettent à tweeter en faisant des haïkus.
Des petites choses bref, qui pourraient être...
Des philosophes, je donne l'exemple de Descartes, qui aurait très bien pu tweeter Cogito ergo sum.
Ce
qui a tout de même un certain sens. Bon, voilà.
Donc, si vous voulez, mais ça, justement, est-ce que ça correspond encore à tweet ? Puisque ça a du sens.
Ah, si.
Et que vous disiez vous-même que, au fond, le projet du tweet, c'est des choses qui ne veulent rien dire. Quoi.
Ça, c'était le projet, mais il s'est trompé, comme toujours. Les inventeurs se trompent toujours parce qu'ils définissent leurs inventions d'une certaine manière. Elle est censée servir à ceci et elle va servir à cela. Et là, effectivement, si vous voulez, quand on dit que les tweets et les SMS ont eu un rôle fondamental dans les printemps arabes, et ça pourrait être le cas dans d'autres parties de la planète, ça n'a pas aucun sens. Je veux dire, c'est un moyen, il s'agit de trouver sa finalité. Celui qui l'invente, la finalité qu'il trouve est justement la dérision, le rien du tout sympathique et rigolo qui fait qu'on s'exprime facilement.
Pourvu qu'on ne soit pas trompé sur le sens du mot changement. Hein.
Parce que la technique existe. Ah, mais le sens du mot changement, il va aussi dans l'autre sens. J'ai donné de nombreux exemples de ça dans une chronique il n'y a pas longtemps sur changement, qui est que chez Rousseau, par exemple, il s'agit de changement négatif très souvent dans l'Émile. Il refuse le changement parce que lui, le changement, il y a forte chance, vu la mauvaise nature humaine qui est le problème de Rousseau, ça va être encore pire qu'avant. Voilà, c'est du genre, c'était mieux avant.
Ça peut être mieux après, mais c'était mieux avant.
Alors, qu'est-ce qui vous a conduit quand même ? Est-ce que c'est la force du mot qui a construit la cité du mot ?
Je crois que c'est bien évidemment le mot en lui-même. C'est aussi peut-être le travail qui a été fait par l'équipe du festival depuis 8 ans. C'est-à-dire que d'une certaine façon, avec la complicité d'Alain, on s'est posé la question de savoir comment on pouvait attirer vers les mots un public qui n'était pas spécialement attiré par ça, parce que les mots paraissent parfois compliqués. Et dès le départ, dès le premier texte qu'on a fait sur le sujet, on a bien évidemment essayé d'expliquer que c'était pas un festival pour ceux qui maniaient les mots avec aisance, et que c'était un festival pour tous, à condition de montrer que, après tout, il y a des parcs d'attractions, hein. Il y a Disney, il y a Astérix. Moi, je voudrais que la Cité du Mot, ce soit un centre attractif, c'est-à-dire un parc d'attractions avec les mots qui ont cette force, cette valeur, ce côté ludique qu'on soulignait tout à l'heure, et qui ont parfois, qui provoquent parfois des difficultés pour un certain nombre de gens. Cette année, après avoir eu Stéphane Hessel comme invité d'honneur, qui avec un mot a fait bouger des choses, un mot dont, ou un point d'exclamation d'ailleurs, il faudrait se poser la question. C'est peut-être le point d'exclamation qui est plus important que le mot, on en avait parlé l'an dernier.
L'impératif
est le point d'exclamation.
Oui, bien sûr.
Mais avec un mot. Cette année, nous avons pris comme invité Martine Lecor. Personne ne sait autour de cette table, et j'imagine dans cette salle, qui est Martine Lecor. C'est une militante d'ATD Quart-Monde. C'est quelqu'un qui a été placé à 6 mois dans une famille d'accueil. Et c'est quelqu'un qui raconte de manière absolument formidable, avec ses tripes, comment elle a dompté les mots grâce à une rencontre avec le père Wrzesinski. Et comment, en domptant les mots, elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une mère qui continue à vivre dans une HLM, et c'est pas le luxe, c'est pas le bling bling, hein, on est bien d'accord. Mais elle vit et elle a pu mettre ses enfants à la faculté. Elle viendra raconter ça à l'inauguration du festival. Moi, je suis fier de ça. Parce qu'il peut y avoir à la fois Abdou Diouf, qui est le président de la francophonie, et Martine Lecor. Comme il peut y avoir à l'intérieur même du programme du festival. On a fait une fois une chose avec les scénarios de Plus belle la vie. On m'a regardé en me disant, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il est fou. Plus belle la vie, c'est un feuilleton de bas étage. On a fait travailler des gens sur les mots à employer pour faire des dialogues, pour partir d'un scénario, et quels mots on choisit pour s'adresser à la population qui regarde Plus belle la vie. Les gens ont travaillé, ils ont fait un atelier, ils en ont discuté après avec les acteurs, et ils ont pu vérifier que c'était pas si simple que ça, les mots, mais que c'était aussi source de plaisir quand on trouvait les bons mots. Cette année, on a Martouret. Nous dînions, ma femme et moi, avec lui hier soir. C'est un bonheur. François a décidé de nous faire un exercice de diction, un peu comme Queneau essayait l'exercice de style, c'est-à-dire avec un même texte, de dire des choses différentes, simplement par la magie de la diction, du mot dit. Moi, j'attends de voir, il est mort de trouille, mais je suis sûr qu'il va faire quelque chose qui est du domaine du plaisir et de l'attractif.
C'est étonnant parce que, je vous regarde tous les... Il y a quelque chose de jubilatoire dans le mot. Ouais, et de, j'allais dire, de libératoire. Dire, quand on sait ce qu'on est en train de dire et pourquoi on le dit, c'est une forme de libération.
C'est une forme de libération. Et je crois que notre objectif, à Marc Le Carpentier et à moi, dans mes écrits aussi, c'est de montrer que le mot, qui est une réalité vivante, avec une saveur, avec une couleur, avec un goût, pour les enfants quand ils apprennent à parler, il suffit d'observer les enfants quand ils apprennent à parler. Il faut que nous revenions à cet état d'esprit, parce que l'adulte, très souvent, un peu par la faute de l'éducation et de l'école aussi, qui donne aux mots cette espèce de transparence artificielle qui fait que c'est un vecteur d'idées, que c'est une expression des sentiments, mais qu'en lui-même, il disparaît. Il n'y a plus de... et c'est vrai pour tous les gens qui baignent dans une langue unique. C'est pour ça que je regrette infiniment que les Français soient tellement monolingues. Je pense que dans toutes les civilisations où les gens sont plurilingues, où ils ont par définition plusieurs langues, par exemple les Africains, il n'y a aucun Africain monolingue, c'est pas possible. C'est pas possible, il a sa langue de village, il a sa langue véhiculaire africaine, il a souvent soit l'anglais, soit le français comme langue de communication extérieure, plus des langues étrangères comme nous apprenons des langues étrangères. Et donc ce sont des gens qui ne fonctionnent pas dans une langue unique, ne fonctionnant pas dans une langue unique, ils ont le sentiment que les mots existent, que entre le monde et nous, il y a cette espèce d'écran. Et vous savez, ce qui est arrivé au mot écran est extraordinaire. L'écran, c'est ce qui empêche de voir au début. Et puis tout d'un coup, les frères Lumière arrivent, ils inventent le cinématographe, et l'écran devient un espace où des choses sont projetées. Et donc, au lieu d'empêcher de voir, il fait voir l'écran tout d'un coup. Donc, on garde le même mot, il se retourne complètement, il ne change pas de sens pour un physicien, mais il change complètement de sens dans notre utilisation personnelle. Donc, il faut que les mots cessent d'être des écrans qui empêchent pour devenir des écrans qui permettent. Et c'est la métaphore aussi de la vitre, oui, de la fenêtre. On voit quelque chose à travers la fenêtre, mais tout d'un coup, quelqu'un arrive qui voit la fenêtre, et c'est Magritte. Et on a comme ça une espèce de révélation des conditions de notre pensée et de notre expression qui sont les mots. Donc il s'agit de les faire revivre, oui, passer de l'oiseau empaillé à l'oiseau qui vole et qui chante.
D'autant que sans vouloir être alarmiste de manière ridicule, il y a quand même quelques signes qui montrent que finalement, on pourrait, si on pouvait se passer de mots un peu compliqués, si on pouvait simplifier un peu tout ça, ça serait pas plus mal. Je cite dans le programme, dans l'édito, une pub qui est passée très peu d'ailleurs. Je crois qu'elle n'a pas dû plaire, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est une pub où on voit des gens discuter, comme nous le faisons là autour de la table. Et puis il y a un écran qui intervient et qui dit « il existe d'autres façons de briller ». Ces gens parlent avec des mots comme nous venons de le faire. D'autres façons de briller et on voit une grosse voiture. Parce que pour briller en société, il vaut mieux avoir une grosse bagnole que de bien manier les mots. Et bien la cité du mot, si ça pouvait être ça, ce petit espace de résistance accueillant et pas du tout fermé sur lui-même, au contraire, accueillant à tous les mots, comme le dit Alain, et bien ça serait pas si mal que ça. On y fera évidemment tout un tas d'activités, à condition quand même, il faut que je le dise, à condition qu'on nous donne un peu d'argent. Parce que là, on est en train de faire comme si tout était beau, oui, et si tout était formidable. On a eu un beau label Centre culturel de rencontre, mais si derrière le label, on ne nous donne pas un petit peu d'argent, on va rester chez nous et où on va repartir et on ne fera plus de 3D autour des mots, ce qui serait, avouez-le, quand même très dommage.
Ah, Marc pose la question de la politique culturelle.
On va peut-être est-ce que le message est bien passé? Est-ce que les mots ont été suffisamment précis, messieurs les dames?
Madame Aurélie, entendez-nous.
Et madame la ministre. Bon, bah, écoutez, à vous suivre et à vous accompagner, j'espère, en d'autres occasions. Bonne chance au festival du 30 mai au 3 juin à la Charité-sur-Loire. Et c'est un bel endroit en plus, la Charité. Un très, très bel endroit.
Merci, Stéphane.
Un petit baiser, Mano.
Oui.
Le baiser de Mano Deva.
Un bon baiser pour un bien vilain mot, tweeté. Même pas un mot français. Un bien vilain mot pour un bien vilain monde. Le monde virtuel, froid, impersonnel et en même temps exhibitionniste et impudique. Le monde de la vitesse, de l'instant présent, mais dénué de toute spiritualité. Une révolution numérique qui a changé notre quotidien, qui le facilite, mais qui l'abîme aussi. On peut tweeter, tout raconter, même des bobards, on rentre dans l'art des inconnus ou bien des stars. Il y a même des ministres qui s'y sont mis, c'est quand même triste. Il faut les lire toutes ces conneries que l'on raconte, et pour ça, il faut un compte Twitter. Ah, il y a de quoi être fier de faire partie de la communauté des tweetos. Tweetos, ça rime avec ringardos. Bon, mais c'est pas bien méchant, c'est juste un peu ridiculos. C'est vrai, je m'acharne sur ce pauvre mot qui ne m'a rien fait. Et puis, il suffit de rajouter un S à ce mot tout neuf, tweeter, symbole de la branchétude, pour en faire un mot qui se tortille dans tous les sens et qui ne date pas d'hier. Twister, un S en plus, un T en moins, et le bas des reins et les hanches s'agitent. Il y a un mot qui nous agite, justement, en ce moment. Un mot décoré d'un joli H pour débuter, qui sonne bien. Harcèlement. Voilà un beau salaud de mot, léger comme une plume, mais qui empoisonne, qui peut même tuer. Harcèlement moral, physique. Mais le mot est-il coupable? Si l'action n'existait pas, il ne serait jamais né. Normal, un mot né, car une pensée est là, suspendue dans l'astral. Une pensée toute nue, même si elle n'est pas innocente. Puis l'action prend le relais, mais une action que l'on ne peut nommer n'existe pas. Il faut qu'elle s'incarne dans un mot. Alors c'est la rencontre du mot et de la pensée-action qui se glissent l'un dans l'autre, qui s'ajustent pour ne faire qu'un. Un peu comme une possession. Il y a des mots qui n'auraient jamais dû naître. Génocide, viol, meurtre, violence, trahison, harcèlement. Des mots qui puent, mais qui sont. Des sons qui n'écorchent pas toujours l'oreille si on ne comprend pas leur sens, comme viol, qui est pourtant un crime. Dans le mot crime, il y a quelque chose là, pour le coup, de dur, de râpeux. Et je ne vous parle pas du mot meurtre. Meurtre, lui, a bien la gueule de l'emploi. Les mots ne sont pas coupables, non, ce sont les hommes qu'ils sont, puisqu'il a fallu habiller de noir et de sang leurs pensées, puis leurs actions. Les mots sont peut-être même innocents, pareil aux esprits de la nature qui, eux, sont neutres. Tout dépend de ce qu'on leur demande de faire. Ce sont des serviteurs qui n'ont pas la conscience du bien, ni du mal. Mais on pourrait aussi me rétorquer qu'au début était le verbe, comme il est dit dans la Bible. Bon, c'est vrai, mais c'est aussi faux, puisque nous baignons dans le monde du dualisme. Alors pour terminer, pour plaider la cause des mots, je dirais que ce ne sont pas les mots que l'on devrait mettre au cachot. Non. Qu'en pensez-vous, Stéphane ?
Eh bien, je pense que je suis assez d'accord avec ce que vous dites.
Ah, ça me fait
et
plaisir.
Que nous sommes de drôles d'animaux, quelquefois, dans la façon
souvent
que
même.
Nous usons des mots. On va vous voir mercredi.
Oui, mercredi, c'est
ça va être
première.
Une belle journée pour vous, parce que ça va être la première. Hein.
La première avec François Berléand. Nous allons faire une lecture à deux voix de Mes bons baisers, saison 1, au Théâtre La Bruyère à partir de 18h30. Et c'est Éric Métayer qui met en scène. Voilà, et 18h30 tous les jours, du lundi au vendredi. Et c'est mercredi ma première. Pensez à moi.
Alors, il y a un mot magnifique dans la langue française.
Oui.
C'est merde.
Je ne vous réponds rien.
Merci à Stéphane Desmonts et à Emmanuel Armingue qui ont permis à ce 3D de se tenir dans ce studio 109 de la Maison de la Radio. C'est Camille Blanès qui m'a aidé à préparer l'émission. C'est Maïté Adam qui l'a réalisé. Et merci à vous tous de nous écouter. Il est 14h30 et on retrouve avec plaisir Solène Demestre.